Bonsoir tout le monde. L'autorité, nouvelle thématique. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire ce soir. Et puis, l'autorité, c'est assez vaste quand même comme sujet. Et puis, j'ai voulu vous partager ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur sur des choses qui m'ont travaillé personnellement. Je n'ai pas forcément fait là une étude sur l'autorité avec point A, point B, point C. Je vais juste vous parler de ma vie. Et puis, pas forcément rentrer dans les détails des témoignages, pas là-dedans, mais des leçons spirituelles que le Saint-Esprit m'a montré. Parce qu'il y a un moment de notre vie, de ma vie, où j'ai dû apprendre ce que c'était que l'autorité, à me soumettre à l'autorité. Et je vais focaliser ma pensée ce soir sur l'autorité dans l'autorité de Dieu et l'autorité dans l'Église. D'accord. Je n'irai pas plus loin que cela. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont intervenir, qui vont peut-être parler de ces sujets. Mais j'aimerais vous partager trois textes, trois pensées que Dieu a mis sur mon cœur et des leçons de vie que j'aimerais vous annoncer. On va aller directement dans ce texte. Titre de mon message, c'est « Notre attitude face à l'autorité ». Normalement, il y a un PowerPoint. Notre attitude face à l'autorité. J'aimerais voir trois histoires. La première histoire, c'est l'histoire de David et de Saül. Et l'histoire de David est une histoire incroyable concernant l'autorité et des leçons spirituelles qui sont tellement profondes pour notre vie. Et avant de lire ce texte, j'aimerais juste remettre dans le contexte. Le peuple d'Israël veut un roi. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Mais parce que le peuple insiste, parce que le peuple d'Israël veut faire comme les autres peuples, Dieu demande à Samuel de oindre un roi. Il y a le roi Saül qui se lève. Dieu bénit Saül en disant « Tu seras roi sur Israël ». Et puis finalement, Saül fait des choses qui déplaient à Dieu. À ce moment-là, Dieu le rejette. Et le prophète Samuel va voir David, un jeune, et va le oindre en disant « Tu seras le prochain roi ». Et l'histoire est incroyable, je vous l'invite à le découvrir dans 1 Samuel. Et Dieu va faire en sorte à ce que David puisse être proche de Saül. À un point tel que la faveur de Dieu est tellement forte sur David que le peuple, quand ils partent en guerre, ils disent « David, enfin, le roi Saül a tué 1000 et David a tué 10 000 ». Et Saül est tellement dans la jalousie qu'il veut tuer, David. Et l'histoire qu'on va lire est une histoire où ils sont en course. Saül essaie de tuer David. Et j'aimerais lire avec vous ce texte. Alors c'est un peu petit, je suis désolé. Mais si vous avez vos Bibles, je vais vous demander d'ouvrir à 1 Samuel, chapitre 24. Et j'aimerais voir avec vous deux ou trois points déjà sur cette histoire de David et de Saül. Je vais lire David. Repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'En-Gedi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Et le roi rassembla 3 000 000 d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant près des parcs à moutons en bordure de chemin, il vit une grotte et il y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenait précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Et dès qu'il eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et ne les laissa pas se jeter sur Saül. Et le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Amen. Une période de ma vie où j'avais besoin d'apprendre ce que c'était que l'autorité et me caler sur le regard de Dieu, me caler sur les principes du royaume de Dieu. Et il y a une première chose que le Saint-Esprit m'avait parlé, c'était par rapport à ce texte, par rapport au cœur de David. un homme selon le cœur de Dieu. Et la première des choses que j'aimerais voir avec vous, ce soir, ça va être juste mon cœur qui parle comme des perles que le Saint-Esprit m'a données, que j'aimerais vous partager. La première des choses, ça va apparaître en slide, c'est que David a été oint pour être roi, mais n'a jamais osé poser la main sur l'autorité en place. Tout le monde savait que David devait être roi. Saül, tout le monde savait que l'Éternel avait renié Saül. Et il se retrouve dans une situation où même les gens qui étaient proches de David disaient « Regarde, l'Éternel te livre Saül. » Et là, il y a quelque chose qui se passe de tellement beau, c'est dans le cœur de David. Il a dit « Non, l'Éternel l'a oint, c'est une autorité que Dieu a placée, je ne le toucherai pas. » Et comment ce texte peut nous parler? Comment cette histoire peut nous parler à nous, à notre propre vie? Je crois que, comme David, à différents degrés, sur le chemin de notre destinée, on va toujours être confronté à une autorité. Et là, je vais me permettre, parce que c'est ce que j'ai à cœur, d'être ciblé, et je vais parler de l'Église, et même des ministères dons, de l'autorité dans l'Église, et dans ce que Dieu a levé comme autorité. Et des fois, dans nos églises, on peut être confronté à une autorité. Et la question, c'est de dire, quel va être ton cœur face à cette autorité? Le cas de David est extrême, mais comment réagissons-nous quand une autorité n'a pas la même vision que nous? Quand l'autorité en place se trompe? Quand l'autorité en place me blesse? Quelle va être mon attitude? Et je sais que c'est assez compliqué de prêcher sur l'autorité, mais je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort. On parle l'histoire de David et de Saül, et puis là je rentre dans un thème assez particulier sur l'autorité dans l'Église, l'autorité que Dieu a placée sur son Église, sur les ministères dons. Et je veux d'abord, sur mon premier point, rester là-dessus. Et je ne veux pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort, mais Dieu regarde à l'attitude de cœur. Quelle est notre attitude de cœur quand je suis face à une autorité? Sur le processus, sur mon chemin, où je suis confronté à cette autorité qui n'est pas d'accord avec moi ou qui ne me comprend pas, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et Steve Rivière, pour tous ceux, celles qui le connaissent, qui gère l'école Destinée, qui est en partenariat avec l'école Clé, nous a dit quelque chose qui est tellement puissant. Il nous parlait de ce thème et il nous disait que les erreurs des leaders révèlent les cœurs insoumis. C'est violent comme phrase. Les erreurs des leaders révèlent les cœurs insoumis. Et j'étais le premier à me repentir. Le premier à me repentir en disant « Seigneur, mon cœur est insoumis. » Qu'est-ce qui se passe quand l'autorité qui est en place, l'autorité que Dieu a placée, fait une erreur, se trompe? Comment nos cœurs... Dans quelle position nos cœurs se trouvent? Et David a eu une attitude incroyable. David a dit « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel, je ferai attention. » Le but, c'est pas de dire que l'autorité est intouchable, on en parlera tout à l'heure, et puis Saül, Dieu s'est occupé de son histoire. Mais on ne cherche pas à savoir, encore une fois, qui a raison, qui a tort, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à toi? C'est la chose la plus importante. Et j'aimerais vous dire que, à ce moment-là, quand David a décidé de dire « Non, je ne toucherai pas, c'est l'Éternel qui l'a oint pour être roi. Dieu l'a peut-être rejeté, mais en aucun cas je poserai la main sur lui. Si Dieu veut l'enlever, c'est Dieu qui l'enlèvera. Je ne touche pas loin de l'Éternel, même si l'Éternel m'a dit que c'est moi le prochain roi. » Et David savait qu'en ayant son comportement, il avait gagné déjà la bataille spirituellement. Je vous le dis, il le savait. Et ce n'est pas quelque chose, je ne prêche pas sur les silences de la Bible. Dans Psaume 57, verset 7, le Psaume 57, c'est un psaume qui a été rédigé par David lorsqu'il était dans la grotte d'En-Gedi. Quand tout ça se l'est passé avec Saül, et il parlera finalement de Saül, du roi Saül et de toute son armée, il dira « Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse et ils sont tombés en plein dedans. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. David savait, concernant l'autorité qui était là, que Dieu avait placé Saül et qu'il n'était pas encore, il n'était pas encore en autorité. Il s'est soumis, il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel, même si lui veut me tuer. Et en ayant une attitude en disant, je ne toucherai pas, il savait que ce que Saül voulait lui faire, c'était Saül qui allait finalement mourir. Alors bien sûr, c'est spirituellement qu'il faut comprendre l'histoire, d'accord ? Il n'y a aucun leader qui veut vous tuer ici, il n'y a rien, d'accord ? On a des stress, mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est quelle est notre attitude de cœur à chaque fois quand il se passe quelque chose. Et j'aimerais vous pointer du doigt aussi quelque chose, c'est que tout cela se passe dans une grotte. Tout cela se passe dans une grotte, et même Saül, l'autorité, ne sait pas ce que David est en train de faire. Et souvent, quand nous sommes confrontés à une autorité, quand nous sommes confrontés à finalement ce que Dieu a placé avec les gens autour de nous, ou encore une fois, je me permets vraiment d'insister, parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur, je parle vraiment des ministères dons, des gens que Dieu a élevés dans l'Église, et je ne parle pas forcément de cette Église, je parle en règle générale. Quelle est notre attitude de cœur? Parce que c'est la chose la plus importante. La grotte, là où personne ne nous voit, ou même les leaders ne nous voient pas, qu'est-ce qui se passe dans ta grotte à toi, dans le fond de ton cœur? Et c'est ça la chose la plus importante. Alors, comment va notre cœur face à l'autorité? Et c'est une saison où, quand le Saint-Esprit m'a parlé de cela, mon cœur n'était pas pur. Et j'avais tellement de choses dans mon cœur que je ne disais pas, mais... Et c'est là où j'ai compris que tout était là. Tout était là. Et qu'on peut penser ce qu'on veut de l'autorité. Mais j'aimerais juste nous rappeler que si Dieu a élevé des hommes et des femmes, ce n'est pas pour ce qu'ils peuvent être... Excusez-moi, c'est pas pour ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, mais pour ce qu'ils sont. Ils ne font pas le ministère, ils sont un ministère. Et c'est là où spirituellement comprendre ce qui se passe et faire attention, parce qu'on parle de quelque chose de spirituel. Et spirituellement, je vous invite à regarder ce texte, à réfléchir sur ce texte et à vous poser la question, comment va mon cœur dans votre grotte à vous, face à l'autorité, face à ce que vous pouvez vivre dans l'Église, tellement de gens qui peuvent être des fois blessés, des gens qui peuvent être dans l'incompréhension. La chose, je ne dis pas hein, vous avez raison, vous avez tort ou quoi que ce soit, je parle juste comment va ton cœur face à l'autorité. Et mon deuxième point suit le premier. Et je suis resté un bon moment dans ma vie avec ce deuxième point jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu me fait grâce et me fasse comprendre cela. Le deuxième point par rapport à ce texte, c'est tant que tu ne comprendras pas le test, Dieu t'y fera repasser jusqu'à ce que tu gradues spirituellement. Tant que tu ne comprends pas le test, tu vas y repasser. J'aimerais vous dire que Dieu ne te donnera pas l'autorité si tu ne respectes pas l'autorité qui est déjà en place. Et j'ai été étonné quand j'ai regardé ce texte que la situation se reproduit une deuxième fois. Parce que alors que David, dans le désert d'En-Gedi, coupe juste le manteau de Saül, la Bible nous dira plus tard qu'il s'est passé exactement la même chose une autre fois. C'était dans le désert de Sif, où finalement David dit « on y va, on va voir ce qui se passe ». Apparemment Saül est là-bas et David prend plusieurs de ses hommes et ils partent. Et la Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit que quand ils sont arrivés, l'Éternel a fait endormir d'un sommeil profond Saül et les 3000 soldats d'élite, à un tel point que même David se remet devant Saül et Saül est en train de dormir et David et ses vaillants guerriers sont là et ils regardent. Encore une fois, et les soldats lui disent, encore une fois, regarde, l'Éternel te le livre, tue-le. Et je priais sur ce texte en disant, Seigneur, pourquoi David a vécu encore une fois la même chose? David, la première fois, était tenté de le tuer dans un sens où la Bible dira, il a commencé à couper le vêtement de Saül, et c'est à ce moment-là que son cœur s'est mis à battre en disant, hop, 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 je ne le toucherai pas. Il revit un deuxième test. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? On ne le touche pas. on ne le touche pas. On prend sa cruche d'eau, on prend finalement sa lance, mais on ne touche pas à Saül. On ne touche même pas à son vêtement. Et j'aimerais vous dire une chose. Je crois que quelquefois, le Saint-Esprit nous met dans des tests et nous teste. Et c'est quand même fou et incroyable quand on réfléchit à ce texte que l'Éternel avait fait endormir Saül et les 3000 soldats pour que les gens pensent que finalement l'Éternel avait livré Saül et les 3000 soldats d'élite finalement à David. Et des fois je crois qu'il y a des temps et des circonstances qui peuvent arriver où Dieu peut agir. Et on peut penser que Dieu veut qu'on agisse comme cela, mais ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Et je crois profondément que ce que Dieu a fait, c'était pour tester David. Savoir qu'est-ce qui allait se passer dans le cœur de David. Parce que, à mon avis, des vaillants guerriers qui sont en train de dormir et des soldats qui marchent à côté de Saül, et ils sont tous là en disant « Mais ils dorment ou quoi là ?» Imaginez. Ils marchent à côté, ils voient les 3000 qui sont en train de dormir, ils font du bruit, à mon avis, ils ont des armures, ça fait du bruit. T'es obligé de dire « Écoute, l'Éternel est en train de faire quelque chose, il ne se réveille pas. » C'est sûr et certain, Dieu nous les livre. C'est sûr. Mais c'était un test. Et David est repassé une deuxième fois dans ce test. Et il a dit « Non, on ne touche même pas, on ne touche même pas. » Sa cruche, sa lance, c'est tout. Puis finalement, on verra, vous connaissez peut-être l'histoire où il montrera à Saül en disant « Tu vois, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas voulu te toucher. » Et je crois qu'à ce moment-là, Dieu a validé le cœur de David en disant « Tu as compris la leçon. » On est repassé une deuxième fois, c'est validé. Et à ce moment-là, le texte dira au chapitre suivant que Saül part en guerre contre les Philistins et il meurt à la bataille. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que quand David ne veut pas tuer Saül, il dira « Non, c'est l'Éternel qui l'a oint, je ne le toucherai même pas. Et si Dieu veut s'en débarrasser, moi je ne le touche pas. Alors peut-être que Dieu va le faire mourir dans une guerre ou autre, mais moi je ne le touche pas. » Et ce qui est étrange, c'est que le chapitre suivant, Saül meurt dans un combat. Et à ce moment-là, l'histoire raconte au fur et à mesure que David devient roi. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à ce texte-là, c'est que j'ai tellement vu de personnes qui... Attendez, je regarde juste quelque chose. De personnes qui passent des tests sur l'autorité dans l'Église et qui repassent les tests, et qui repassent les tests, et qui repassent les tests, et qui ne savent pas que Dieu est en train de les tester. J'étais le mois dernier avec un couple, alors pas dans cette église, pas dans cette ville, voilà. Et... je discutais avec ce couple qui avait quitté une église pour aller dans une autre église. Et puis comme beaucoup de personnes, ils vivent ce qu'on appelle la lune de miel. Tout se passe bien, c'est incroyable. Puis finalement, ça a duré 2 ans, puis là je les ai rencontrés, puis ils disaient « Je crois que le Saint-Esprit nous appelle à quitter l'église, aller dans une autre église. » Et là, Dieu me met sur mon cœur, ils disent « Non, en fait, il y a quelque chose dans leur cœur qui ne va pas concernant l'autorité. » Et là, en posant des questions, je me suis rendu compte que finalement, ils avaient été blessés par finalement les leaders de l'Église. Et puis, j'ai discuté avec eux. Et puis, à ce moment-là, ce que j'ai eu à cœur de leur dire, c'est de dire, écoute, tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous allez changer d'Église et vous allez revivre la même chose. Et tant que tu ne comprendras pas les leçons spirituelles, le Saint-Esprit va t'y remettre à chaque fois, jusqu'à ce que tu comprennes. Et la question n'est pas savoir est-ce que le leader a raison, est-ce que le leader a tort, on n'est pas là-dedans, et mon point n'est pas là-dedans, je ne veux pas prêcher là-dessus, c'est comment va ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Et t'as beau changer d'endroit, t'as beau aller où tu veux, si tu ne gradues pas Dieu, si tu ne comprends pas le test, et si tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ton cœur, tu vas repasser à chaque fois les mêmes tests, jusqu'à ce que Dieu gradue, et que dire « Seigneur, c'est toi ma justice », et à ce moment-là, Dieu dit « Validé ». On passe à autre chose. Amen. J'aimerais vous donner une illustration de ce que je vous dis pour utiliser plusieurs textes. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Levez la main pour ceux et celles qui connaissent l'histoire de Jonas, ça va? Comme ça, je vois si je la fais courte. Ok, vous connaissez l'histoire de Jonas, c'est parfait. Vous connaissez le prophète Jonas, Dieu lui dit d'aller prêcher la repentance à Ninive et il refuse, il s'en va. Et je me suis renseigné un petit peu sur les villes. Dieu lui dit, va à Ninive. Et lui, il s'en va, il fuit au port de Jaffo, qui finalement est devenu Jaffa, et au port de Tarsis, qui se trouve en Espagne. En fait, là où le prophète Jonas se trouvait, Dieu lui dit, va à Ninive. En fait, c'était 1000 km à l'est. Et il fuit. Et il va à 2800 km à l'ouest. Il fuit, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que Tarsis, à l'époque, c'était la ville la plus loin que l'humain pouvait connaître. C'était l'extrémité du monde. Okay ? Et plusieurs commentateurs bibliques disent que pour aller du port de Jaffo au port de Tarsis, c'était un an de bateau. Un an. Et il a payé de ses propres deniers un an de voyage. Comment vous dire qu'il a fui le test ? Et qu'est-ce qui se passe ? Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui se passe quand finalement, alors on l'a tous fait, pour ceux qui sont nés dans les familles, à l'église, on l'a fait tous fait, hein, cette histoire de baleine, voilà, on a tous colorié ces dessins. Je ne suis pas tout seul, c'est bon, on a tous colorié ce dessin avec Jonas et la baleine. Qu'est-ce qui se passe quand le prophète Jonas se repent ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous réveille là, c'est le soir, c'est pas le matin. Qu'est-ce qui se passe quand il se repent ? Qu'est-ce qui se passe avec la baleine ? Enfin, c'est pas une baleine, mais c'est un gros poisson, mais qu'est-ce qui se passe ? Exactement, elle le recrache, exactement. Elle le recrache. Et ce qui est intéressant, lisez-le. La Bible dit que, alors qu'il est quand même, super loin, on est d'accord, Jonas ? La Bible dit, Jonas se met à se repentir. Le gros poisson le recrache. Et la Bible dit, et Jonas se trouva à 3 jours de marche de Ninive. Regardez-le. Il se trouve à 3 jours de marche de Ninive. Et quand je lisais ça, à un moment donné, je dis, Seigneur. Et le Seigneur me dit, tu vois, il a fui, je le remets devant son test. 3 jours de marche. Alors qu'il a fui 2800 km. On ne sait pas s'il est arrivé réellement, mais on sait qu'il est déjà parti. Il se retrouve à 3 marches, à 3 jours de marche. C'est incroyable. Tant qu'on ne comprend pas la leçon et tant qu'on ne comprend pas le test. Et là, cette fois-ci, pour Jonas, c'était l'autorité de Dieu. Dieu lui a parlé. Il a dit, Seigneur, non, je ne vais pas le faire. Tu me parles, mais non. Hop, 3 jours de marche. Incroyable, n'est-ce pas ? Incroyable cette histoire avec Jonas. Ça, cette histoire, c'était pour appuyer mon point sur tant que tu ne comprends pas, tant qu'on ne comprend pas le test de Dieu, et tant qu'on ne le valide pas, Dieu va nous faire passer à chaque fois le même test jusqu'à ce qu'on dise validé, on passe à autre chose. Est-ce que ça parle à certains ? Ok ? Ok. Je voulais parler d'Absalom, mais le temps va me manquer, donc je vais passer à autre chose. J'aimerais vous parler d'un autre texte. L'histoire de David est incroyable par rapport à ça, mais j'aimerais parler d'un autre texte pour donner une autre pensée que Dieu a mise sur mon cœur. On a parlé de David et Saül, et j'aimerais parler maintenant de Jésus et de Jean-Baptiste. Jésus et Jean-Baptiste. Et avant de lire Matthieu chapitre 3, verset 13, je remets dans le contexte. Matthieu, il y a eu 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et à ce moment-là, Dieu avait prophétisé que l'Esprit d'Élie allait revenir et allait aplanir le sentier pour que le Messie puisse arriver. Et là, on découvre Matthieu, puis on commence à lire le livre de Matthieu, et puis on voit qu'un homme du nom de Jean-Baptiste se lève, et l'Esprit d'Élie est sur lui pour ouvrir la voie pour Jésus. Vous connaissez tous cette histoire, ok ? Et là, j'aimerais lire avec vous Matthieu 3, je le lis, versets 13 à 15. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, écoutez bien, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Et là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Concernant l'autorité, voici mon premier point sur ce texte. C'est que Jésus s'est soumis à l'autorité qu'il avait lui-même placée. Jésus n'avait aucun péché, il était le Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et le baptême, c'était pour dire « Je suis pécheur et je passe de la mort à la vie et mes péchés sont pardonnés. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Non. C'est pour ça que Jean-Baptiste, je suis à fond sur David là, c'est... Jean-Baptiste dit, non, écoute, c'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser, je suis pécheur, t'es le fils de Dieu, t'es sans péché, c'est pas à moi. Et Jésus dit quelque chose d'incroyable. Il dit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Jésus sait qu'il est le fils de Dieu, il sait qu'il est spirituellement supérieur finalement à Jean-Baptiste, mais il savait que Dieu le Père avait placé, et même Dieu le Fils, même lui depuis la fondation du monde, avait placé Jean-Baptiste comme celui qui devait lui ouvrir la voie, et que le baptême d'eau était une préparation à la nouvelle alliance pour passer de la mort à la vie. Et Jésus se soumet à ce qu'il avait mis en place, même s'il n'était pas pécheur. Jésus n'a pas regardé à sa condition de fils de Dieu pour dire, écoute, moi je suis fils de Dieu, je vous ai demandé, mais je ne vais pas m'y soumettre. Il s'y est soumis. Et je ne sais pas si ça vous fait bizarre, mais Jésus s'est soumis à l'autorité qu'il a mis en place. J'ai écrit, Jésus n'a pas regardé à sa condition de fils de Dieu par rapport à Jean-Baptiste, le prophète qui est venu au monde pour ouvrir la voie pour lui, mais il a accompli ce que Dieu considère comme juste. On parle là de justice de royaume, on parle d'autorité. Et mon deuxième point, c'est Jésus est élevé par Dieu. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand Jésus se soumet à l'autorité qu'il a lui-même placée quand il s'est fait baptiser? La Bible dit que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe, se pose sur Jésus, et Dieu parle et dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous êtes d'accord avec moi? En le lisant rapidement, on a presque l'impression... Allez, je me permets de dire ça vite. On a l'impression que finalement, Jésus était pécheur. Jésus se convertit, passe par les eaux du baptême. Et c'est à ce moment-là que finalement, Dieu dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais non. Prenons du recul sur le texte. Jésus était le Fils de Dieu et il n'avait pas besoin de passer par les eaux du baptême. Donc, spirituellement, ça n'allait rien changer pour lui. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte à ce que le cœur du Père soit touché et que Dieu puisse dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pas le baptême, mais ce qu'il y avait derrière. Il s'est soumis à l'autorité que lui-même a placée. Je répète ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. « Accomplissons tout ce que Dieu considère comme juste. » Il n'a pas cherché à chercher sa gloire comme une proie arrachée. Il n'a pas essayé de dire « Je suis le fils de Dieu, donc je ne vais pas le faire. » Non, il s'est soumis. Et parce qu'il s'est soumis à l'autorité qu'il a lui-même placée, à ce moment-là, le ciel de Dieu, le ciel s'ouvre et Dieu parle sur sa vie en disant « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Parce qu'il a compris quelque chose, il a compris le principe de l'autorité. Amen. J'aimerais vous parler de mon troisième point, et celui-là, il est un peu... Les textes que je vous ai donnés, c'est des textes que, là où j'avais besoin de travailler dans mon cœur par rapport à l'autorité, ce sont des choses que j'ai compris, ce sont des choses que je me suis repenti, le sac et la cendre, et puis ça a apporté du fruit dans mon cœur, dans ma vie. Puis le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est un point qui est assez récent, parce que c'est le Saint-Esprit m'a parlé très clairement cette semaine. Sur ce texte, c'est sur Zacharie et l'ange Gabriel. Et alors, c'est drôle que je prêche sur l'autorité parce que cette semaine, mardi, mercredi et jeudi, s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie. Et je ne vais pas en parler parce que je ne désire pas le faire, mais je vais juste tirer les leçons de ce qui s'est passé. Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Ça fait des semaines et des mois que ça dure. Et là, il a dit, c'est le moment de le faire. Tu le fais. Et je savais que ça venait de Dieu. C'était clair et c'est un acte que je devais faire qui me coûte. Mais je vous dis là, qui me coûte. Ça. Vous savez, le genre de choses où tu sais que c'est comme gravé à vie, quoi. Tu sais que toute ma vie, je dirais, cette semaine-là, c'était une semaine de fou. Dieu m'a demandé de faire un truc, mais... Et je savais que je devais poser plusieurs pas. Je pensais que je devais faire deux choses par rapport à ce que Dieu m'a demandé. Encore une fois, l'histoire n'est pas si importante que ça. C'est surtout la leçon qui est derrière. Ça m'a coûté, je l'ai fait un peu avec les larmes. Je me suis dit, ok, mardi, mercredi, je sais que je vais devoir poser deux actes. Et jeudi, je suis dans ma voiture, je suis au boulot, je suis commercial, donc je suis dans la voiture, je roule beaucoup. Donc l'avantage de rouler beaucoup, c'est que j'écoute beaucoup de louanges. Ma voiture, c'est toujours de la louange. Et puis j'écoute beaucoup de prédications. Et j'écoutais une prédication de Bill Johnson sur ce texte-là. Et rien à voir. Et alors que j'écoute cette prédication, le Saint-Esprit me parle du même texte, mais d'un truc qui n'a strictement rien à voir sur la prédication de Bill Johnson. Et je dis, waouh, c'est profond. Je pense que je vais l'utiliser comme troisième point pour ma prédication. Mais ce que je ne savais pas, c'est que 10 minutes plus tard, j'allais être confronté à ça, au point que je vais vous partager. Et là, je dis, ok, putain, c'était pour moi en fait. Et j'ai dû poser un troisième pas par rapport à ce que Dieu m'a demandé, qui m'a coûté encore, qui m'a vraiment coûté. Et si je veux vous en parler, ce n'est pas juste pour dire voilà ce qui m'est arrivé ou quoi que ce soit, mais ce que je crois réellement que ce que Dieu m'a dit est une leçon spirituelle qui peut être bénéfique pour le corps de Christ. Je vais lire ce texte et puis ensuite je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. C'est l'histoire de Zacharie et la naissance de Jean-Baptiste. Je le lis, Luc chapitre 1, versets 8 à 20. « Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur afin d'y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Et quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. » Petite parenthèse, la prédication de Bill Johnson était super bonne. Il disait que sur ce texte-là, en grec, le texte ne dit pas ça. Le texte dit, « Dieu a entendu la prière que tu ne pries plus. » C'est fort quand même. J'en étais où? Ouais, je cherche le verset. Ouais, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean, il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance qui résidaient en Élie. Pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler, jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. » Je vais m'arrêter là. Tout le monde connaît ce texte. Et c'était mardi, mercredi, on était jeudi quand ce texte vient dans mon esprit. Je venais de poser deux actes qui m'ont coûté. Et à un moment donné, je me posais la question en me disant, est-ce que c'est quand même bien ce que je fais? Est-ce que vraiment ça ne peut pas attendre un petit peu, pour ceux qui connaissent l'histoire? Est-ce que je ne peux pas attendre un petit peu? Et puis, tu sais, essayer de négocier finalement l'autorité de Dieu, si on se parle honnêtement. Alors je savais que Dieu m'avait parlé, mais on cherche des raccourcis, on dit est-ce que c'est pas très sage et c'est pas très ceci, c'est pas très cela. Et là le Saint-Esprit me dit clairement, avec plein d'amour, par rapport à Zacharie, si tu remets en question ma parole et mon autorité, alors, comme Zacharie, tu seras muet et tu ne seras pas une voix pour ta prochaine saison. J'en ai parlé à un ami qui m'a dit, bah, écoute, t'as pas beaucoup d'alternatives quand même. Je pense que là, ça va être... Et pourquoi je vous en parle? Parce que je crois réellement que quand on remet en question... Du coup, finalement, 10 minutes plus tard, j'étais confronté à un truc et j'ai pas négocié. J'ai dit non, c'est ça, je vais même pas chercher à négocier parce qu'il y avait une possibilité de, mais non, je reste ferme dans ma décision. Le point est celui-ci. Je crois réellement que quand nous remettons en cause l'autorité de Dieu, je parle là spécifiquement quand Dieu nous parle, quand on lit la parole de Dieu, quand Dieu nous parle, quand on sait que Dieu nous parle. Et pas besoin des fois que Dieu nous dit quelque chose à l'oreille, une révélation. Je parle ce qui est écrit même dans la parole de Dieu. Quand Dieu nous demande de faire des choses et quand nous remettons en question son autorité, parce que Dieu, Jésus est la parole de Dieu, et quand nous remettons en cause son autorité ou on se met à poser des questions, nous devenons muets dans notre saison. Nous ne sommes pas une voix pour notre saison. Et quand Dieu nous demande, et quand on sait qu'il faut qu'on commence à proclamer des choses, comment tu veux le faire spirituellement si, à cause du fait que tu as mis en question l'autorité de Dieu, tu es muet spirituellement? Qu'est-ce que tu vas proclamer? Qu'est-ce que tu vas appeler si tu t'es rendu toi-même muet? Donc du coup, ça qui est la cendre, je m'en souviens dans cette voiture, ça m'a... Et je crois, je priais sur ce texte, je dis, Seigneur, montre-moi un autre texte où tu en parles de ça. Et alors que je faisais ce message, tout à l'heure, parce que c'est quand même très récent, je priais, et puis alors que j'avais utilisé Jonas, le Saint-Esprit m'a ramené sur Jonas. Écoutez-moi, Jonas, c'était un prophète. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, un prophète, Dieu lui parlait face à face. Il se trompait, c'était un faux prophète, parce que ce n'était pas comme dans la Nouvelle Alliance. Le but, ce n'est pas de faire une étude sur les prophètes. Mais si quelqu'un se trompait, on savait que ce n'était pas un vrai prophète. Le prophète, dans l'Ancien Testament, était la bouche de Dieu. C'était la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand Jonas remet en question l'autorité de Dieu? Il est avalé par un grand poisson et il n'est plus la voix de Dieu. Il devient muet parce qu'il est au fond de l'eau et il n'est plus la voix de Dieu pour Israël et pour Ninive. Il devient muet, alors qu'un prophète est la voix de Dieu. Et la question, j'aimerais finir ce message avec ce point, c'est quel est ton cœur face à la parole de Dieu, face à l'autorité de Dieu? Et je crois que si nous désirons être une voix, si nous désirons pleinement vivre notre destinée, faisons attention à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous déclare. Et de dire, Seigneur, je ne resterai pas muet. Je veux être une voix. Et si tu es une voix, à ce moment-là, on connaît toutes les références sur le fait de dire, prophétise, proclame, appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Comment veux-tu le faire si tu es muet? Spirituellement, je parle. Je sais que c'est un peu violent tout ce que je dis. Mais j'ai voulu partager mon cœur, j'ai voulu vous partager cela, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'aimerais juste vous, pour cette nouvelle année, je crois réellement que l'année 2017 va être une année importante. Mais je ne dis pas ça juste comme cliché, je l'ai vraiment à cœur, vraiment fort sur mon cœur, que l'année 2017 va être une année de percée. Une année de percée, une année de décision, une année de nouveau territoire. Et que l'année 2017 va déterminer les prochaines années. Je crois que 2017, beaucoup de gens vont prendre des décisions, même dans l'Église, qui vont impacter les prochaines années. Des décisions importantes pour leur vie, comme un shift. Une décision disant, tu vois, en 2017, j'ai fait ce choix-là, 180 degrés, je suis parti là, j'ai pris telle décision. Et spirituellement, c'est l'année des percées, l'année des conquêtes, l'année des nouveaux territoires. Et il va être important pour cette nouvelle année, on parle d'autorité, de ne pas être muet dans cette saison et d'être une voix. Et pour cela, de dire, Seigneur, je ne remettrai pas en question ton autorité, ce que tu me demandes. Même si ça me paraît fou, même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas logique, tu me le demandes, je le fais. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de fort qui se passe. Okay. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, puis je vais faire un appel qui va être simple. Alors que je vais demander au groupe de louanges si vous pouvez revenir. L'appel est très simple. Le but, c'est pas de... Je laisserai le micro ensuite à Jasmine, qui, je crois, a plusieurs choses dans son cœur. Mais vous, devant Dieu, j'aimerais que, alors que tout le monde a les yeux fermés, c'est de dire la question des, si vous savez que ce que vous faites peut vous rendre muet pour votre prochaine saison. Si ce que vous faites, quel est votre cœur par rapport à l'autorité de Dieu, par rapport à ce que Dieu vous dit. Il y a des choses où on retarde notre destinée tout simplement parce qu'on ne désire pas le faire. Parce qu'on se pose tellement de questions. Et quand on se pose des questions, on remet en question ce que Dieu nous demande. Et on appelle ça marcher par la foi. Et ma prière est très simple. Si n'oubliez pas que pour ceux et celles qui disent ben, finalement, ça s'est déjà passé, puis finalement, j'ai ignoré les choses. Puis finalement, je me rends compte que dans ma saison, je ne suis pas une voix. Je suis muet, il n'y a rien qui se passe. Rappelez-vous du point qui a été dit. Dieu te fera toujours repasser par ce test-là. Et si tu es repentant, comme le prophète Jonas, il va te ramener devant. Comme David, qui finalement n'avait pas compris totalement la leçon, et puis qui est revenu et que Dieu lui a replacé. Et il y a toujours une seconde chance. Nous avons le Dieu de la seconde chance, qui te remet devant et dire maintenant, est-ce que tu le comprends? Je vais te remettre, si tu as un cœur repentant, je vais te remettre dans la même situation. Et à ce moment-là, je te permettrai de reprendre cette décision. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de seconde chance. Et je vais te demander, je ne vais pas faire lever la main parce que ça se concerne entre toi et Dieu, de dire, Seigneur, donne-moi une deuxième chance. Et je vais vous inviter dans les prochaines saisons, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Dieu va faire en sorte, tout comme David, tout comme Jonas, de vous remettre devant le test et de dire, eh Seigneur, je vais être vigilant, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce test, pour que je puisse voir, Seigneur, cela. Et répondre comme ton cœur aimerait que je réponde, afin de graduer spirituellement, afin d'être ensuite, prendre du poids spirituel et avancer et être une voie pour ma prochaine saison. Amen.